Alors, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce séminaire que j'organise avec Jean-Louis Alperin de l'École normale supérieure et Geneviève Giudicelli de l'Age de l'Université de Paris 1, et qui vient compléter en fait le cours que certains d'entre vous ont peut-être suivi, Liberté et sûreté dans un monde dangereux. Alors, c'est un cours que j'avais ouvert sur un constat un peu inquiétant, la réalité des dangers. On ne peut pas nier que le monde est dangereux, mais l'incertitude des réponses. Est-ce que les réponses sont les bonnes réponses? Pas sûr. Pas sûr, d'autant que j'avais conclu sur une interrogation. Allons-nous vers des sociétés de la peur? Où allons-nous? Et où allons-nous? Parce que l'un peut conduire à l'autre. Vers une communauté de destin. Autrement dit, si vous voulez, plus brutalement, nos descendants seront-ils voués à construire toujours de nouveaux murs ou à lancer des ponts, des passerelles? Alors, en intitulant ce séminaire « Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale du 19e au 21e siècle », qu'est-ce que nous voulons faire? En réalité, nous voudrions éclairer les politiques qui se mettent en place, particulièrement puisque nous appartenons au monde occidental, en Europe et aux États-Unis. Pourquoi sécuritaire? Bien, je dirais sécuritaire en ce sens que ce sont des politiques qui fondent leur légitimité sur la dangerosité plus que sur la culpabilité des délinquants et leur efficacité sur la mesure de sûreté plutôt que sur la punition. Autrement dit, il y aurait une sorte d'abandon de la rationalité pénale traditionnelle, dite moderne, qui, dans le prolongement des Lumières, s'était inscrite au cœur du discours officiel. Bien sûr, cette rationalité relevait sans doute du mythe, mais elle se donnait au moins comme un idéal, l'objectif de responsabiliser le délinquant. Et elle plaçait au cœur de la responsabilité pénale le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on refusait de séparer peine et mesure de sûreté, et on s'efforçait d'exclure les formes extra-pénales de type internement administratif ou surveillance policière qui rappelaient d'un peu trop près les pratiques arbitraires de l'Ancien Régime. Abandon de cette rationalité, pourquoi cet abandon? Alors, pour essayer de le comprendre, nous avons donc invité des historiens, des pénalistes, des sociologues, philosophes, politologues à revisiter ensemble la doctrine pénale du 19e au 21e siècle. Donc il y a une partie historique, il y a une partie tout à fait contemporaine. Et ce que nous voudrions faire, c'est observer la façon dont s'entrecroisent et se légitiment réciproquement les doctrines et les pratiques. C'est pourquoi les débats, vous l'avez vu sur le programme, vous le voyez en ce moment, sont organisés dans une triple perspective, historique, contemporaine, et prospective, autrement dit hier, aujourd'hui, mais aussi demain, pour autant qu'on puisse imaginer l'avenir. Alors ce matin, nous allons donc commencer, paraît assez logique, par la perspective historique. C'est un chemin qui nous conduit plutôt des doctrines aux pratiques. Alors, je rappellerai seulement qu'au XIXe siècle, la doctrine de l'école positiviste a été élaborée en Italie, au fond, au nom du réalisme, que l'on entendait opposer aux échecs de la doctrine dite moderne, celle de l'école classique née avec Beccaria, parce que la criminalité était florissante. Je dirais qu'à cette époque de foi dans le progrès scientifique, les auteurs de cette doctrine de l'école positiviste ne font pas dans la nuance. Il y a une sorte de radicalité qui s'exprime alors. Par exemple, le médecin Lombroso, dans son Anthropologie criminelle, en appelle à Darwin pour fonder sur la continuité entre l'homme et l'animal l'atavisme de certaines formes de criminalité qui l'amène à penser que les criminels sont au fond des hommes qui sont restés en arrière dans l'évolution. Ils constitueraient une véritable race à part avec des stigmates précis qu'on peut identifier, biologiques ou psychologiques. Et Enrico Ferri, le sociologue, critique violemment les trois postulats qui fondent l'école classique. Le criminel est pourvu d'idées et de sentiments comme tous les hommes. L'effet principal des peines est d'empêcher l'augmentation des crimes. Et l'homme possède le libre arbitre et se trouve donc moralement responsable de ses actes. Pour Ferri, il faut sortir de ces postulats. C'est un cercle qu'il juge vicieux, un cercle scolastique, comme il l'appelle, et il répond point par point. Et là non plus, il ne fait pas dans la nuance. L'homme criminel, par ses anomalies organiques et psychiques, héréditaires et acquises, est une variété spéciale du genre humain. Les crimes, écrit-il, jaillissent, augmentent, diminuent et disparaissent pour d'autres causes que les peines écrites dans les codes et appliquées par les juges. Et finalement, le libre arbitre n'est qu'une illusion collective qui est en fait démentie par la physiopsychologie positive. Alors on arrive à cette idée que la défense de la société impose d'exclure certains individus de l'humanité au nom d'une altérité radicale, une sorte de dichotomie absolue entre les criminels et les honnêtes gens. Ce n'est pas la même humanité. En réalité, cette dichotomie me paraît relever d'une anthropologie guerrière. Et dans mon cours, j'avais rapproché le criminel né de Lombroso et l'ennemi absolu de Carl Schmitt. Mais il semble que, par sa radicalité même, cette doctrine de défense sociale, qui avait commencé à être appliquée d'ailleurs, non seulement par les régimes totalitaires comme l'Allemagne hitlérienne, mais ailleurs en Europe. En France, on a la loi 1885 sur la relégation. En Belgique, il y a la loi de 1930 de défense sociale. Aux États-Unis, également des applications. Mais cette doctrine, après la guerre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on pouvait la croire vouée à l'abandon. Parce que le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le climat humaniste qui est lié notamment à la grande Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, principe d'égale dignité de tous les êtres humains. Pourtant, réaménagée par la défense sociale nouvelle, mais sous une forme très assouplie, cette doctrine va être intégrée à certains dispositifs législatifs. Par exemple, en France, on votera la loi de 1954 sur les alcooliques dangereux. Et si on lit bien la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on peut se dire que peut-être que l'article 5.1 petit e a quelque chose à voir avec la défense sociale. C'est le texte qui autorise la détention d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, détention d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. Légitime la détention d'un vagabond. Mais dans la période qui suit, la relégation va être abolie, en France par exemple, et le code pénal voté en 1992, qu'on appelle le code Badinter, et entré en vigueur en 1994, refuse de séparer peine et mesures de sûreté, considérant que même si certaines mesures sont destinées au traitement du délinquant, elles sont ressenties tout de même comme punitives, donc une seule catégorie, et après tout, on n'a pas changé le nom du code qui reste pénal, donc fondé sur la peine. Or, ça, c'était en 1992-94, mais depuis quelques années, les années les plus récentes, de nouvelles mesures, prises notamment, mais pas uniquement, au nom de la lutte contre la récidive, ressemble étrangement à un retour à la défense sociale dans sa forme la plus radicale. Bien qu'elle soit présentée comme à l'avant-garde du progrès, soutenue d'ailleurs par une industrie de la surveillance qui est en pleine expansion, et réactualisée, c'est vrai, par de nouvelles technologies, on peut interconnecter les banques de données, les mettre en corrélation avec les identifiants biologiques. Malgré tout, ces nouvelles pratiques semblent bien renouer avec l'école positiviste. Alors, j'avais longuement étudié dans le cours la loi de 2008, la loi du 25 février 2008, la loi française sur la détention de sûreté. Pourquoi cette longue étude ? Parce que c'est une loi qui autonomise la dangerosité par rapport à la culpabilité, qui sépare la mesure de sûreté de la peine, encore plus radicalement qu'elle l'avait été auparavant par la loi de 2005 sur la récidive. Et le résultat, c'est qu'elle permet de maintenir un condamné en détention après exécution de sa peine pour une durée qui est en principe d'un an, mais qui est renouvelable indéfiniment. Et le tout sur le seul critère de la dangerosité. Alors, la loi vient d'être votée, donc on n'a pas encore d'exemple pour la France, mais la loi qui a servi de modèle, en fait, au droit français, qui est la loi allemande sur l'internement de sûreté, montre très bien, dans une affaire qui est actuellement soumise à la Cour des droits de l'homme, l'affaire Muqueux, les résultats auxquels on arrive. Dans cette affaire Muqueux, l'auteur avait été condamné en 1986 pour 5 ans d'emprisonnement pour vol qualifié et tentative de meurtre. 5 ans. En 2009, c'est-à-dire 23 ans plus tard, il est toujours en prison, non plus pour purger sa peine, mais au titre de l'internement de sûreté. Alors, bien sûr, il y a une autorité judiciaire qui intervient, il y a un contrôle d'un juge, mais le juge ne contrôle pas la preuve de la culpabilité, puisque ce n'est pas ça qui fonde la rétention. Ce que le juge contrôle, c'est en fait un diagnostic de dangerosité et un pronostic de récidive. Donc une simple probabilité, et une probabilité, ça exclut, en bonne logique, la preuve contraire. Alors que l'accusé est présumé innocent et bénéficie du doute, la dangerosité se trouve en fait nécessairement présumée. Il y a l'auteur d'une thèse il y a quelques années qui a essayé de bâtir un principe de présomption d'innocuité qui serait transposé des êtres humains, des produits dangereux aux êtres humains. Mais en fait, ça paraît un non-sens. On est donc dans une situation inédite où la décision exclut en fait toute possibilité d'erreur judiciaire. Comment démontrer qu'il y a eu une erreur si on est maintenu en détention de façon illimitée, même de façon perpétuelle? Alors, je m'étais demandé dans le cours, c'était au fond mon hypothèse de départ, comment en sommes-nous arrivés là? Et constatant l'évolution convergente d'autres systèmes que le système français, d'autres systèmes de droit interne, j'ai cité le droit allemand, on pourrait en citer bien d'autres, et puis la convergence aussi avec certaines dispositions du droit européen et du droit international, je m'étais dit, il y a peut-être eu là un effet 11 septembre. C'est-à-dire que les attentats du 11 septembre 2001 n'auraient pas suscité la création des politiques sécuritaires, le courant sécuritaire a toujours existé, mais auraient en quelque sorte servi de révélateur et peut-être même levé un tabou, libéré en tout cas les responsables politiques, symboliquement et juridiquement, de l'obligation de respecter les limites de l'état de droit. Et c'est ce qui aurait déclenché ce retour à des pratiques que l'on pensait révolues, comme la rétention de sûreté. Je l'ai dit, c'est une mesure qui s'inspire du droit allemand, mais pas n'importe quel droit allemand, car l'internement de sûreté en Allemagne remonte à une loi de 1933, c'est-à-dire une des rares institutions de la période nazie qui n'avait pas été abrogée. Alors, cette loi était tombée en désuétude, et même pendant la vague terroriste en Allemagne dans les années 70, elle n'avait pas été remise à l'ordre du jour. En fait, c'est en 1998 qu'une loi annonce sa renaissance en supprimant la durée maximum de la mesure, mais c'est finalement en 2004 que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe va valider ce retour à la loi de 1933. Alors même légitimé par de nouveaux habits, nommés droit pénal de l'ennemi, on en parlera cet après-midi, ou doctrine de l'ennemi combattant illégal aux États-Unis, les pratiques contemporaines semblent appeler une comparaison avec leurs ancêtres. C'est pourquoi il nous a semblé important d'entendre d'abord les historiens. Jean-Louis Alperin, qui est à ma gauche, introduira cette première session. Il présentera ce qu'il nomme l'ambivalence conceptuelle et contextuelle des doctrines pénales modernes. Et puis ses collègues, Carlos Petit, Bernard Harcourt et finalement Jean Danet, prolongeront le débat. Je laisse le soin à Jean-Louis Alperin de vous présenter les intervenants. Je vous indique simplement, pour vous donner une vue d'ensemble du programme de la journée, que Jean Danet, à la fin de la matinée, va s'interroger sur la doctrine de la défense sociale nouvelle en posant des questions qui feront la transition, en fait, avec l'après-midi. Il se demande comment cette doctrine, dont l'humanisme et l'attachement profond aux droits de l'homme ne fait aucun doute, a-t-elle été amenée à réaménager le discours de la défense sociale ? Avec quel risque au regard de ses valeurs et pour quels résultats ? Je crois que c'est une très bonne manière de faire la transition avec la deuxième session de cet après-midi qui sera consacrée à la perspective contemporaine. Une perspective qui se déploie, semble-t-il, à l'inverse de la perspective historique, des pratiques à une doctrine qui viendrait légitimer a posteriori les pratiques. Et je vous présenterai les intervenants cet après-midi sur ce thème. Mais nous ne voulions pas nous en tenir au seul constat, à la seule description. Pour éclairante qu'elle soit, ni la connaissance du passé ni la critique du présent ne suffisent pour dire comment sortir de l'impasse, c'est-à-dire comment réussir à réconcilier la sécurité, les libertés et l'égale dignité, inscrite maintenant, comme je l'ai rappelé, en tête des droits de l'homme. Ce qui fait que nous avons tenté d'organiser une table ronde que nous avons appelée prospective, qui est prévue en fin d'après-midi, table ronde très ambitieuse, puisque avec deux nouveaux orateurs et les intervenants de la matinée qui souhaiteront se joindre à nous, nous allons essayer de répondre à la question « comment sortir de l'impasse ?». Je ne vous promets pas de vous donner une recette magique, mais nous allons au moins essayer d'ouvrir des pistes pour sortir de l'impasse. Enfin, la conclusion sera présentée par Robert Badinter, qui a été, vous le savez, ministre de la Justice. J'ai parlé de ce code qu'on appelle parfois le code Badinter, qui est devenu président du Conseil constitutionnel, puis sénateur. Je crois que son expérience et sa sagesse nous seront plus que jamais utiles et même nécessaires. Donc voilà le programme de la journée. Maintenant, je laisse Jean-Louis Alperin prendre la direction des opérations et vous présenter le travail des historiens. Merci.